Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonsoir à tous. Nous vaincrons par la fraternité. Une marche silencieuse a rassemblé cet après-midi à Lyon près de 400 personnes contre le terrorisme et en mémoire du prêtre égorgé dans une église de Saint-Étienne en Rouvray. Alors que les hommages se poursuivent, dans le même temps, l'enquête avance. Les dernières précisions à suivre avec Héloïse de Neuville. Au Burundi, une manifestation contre le déploiement de 228 policiers après la décision du Conseil de sécurité de l'ONU hier. Une protestation organisée par les autorités burundaises, décryptage à suivre avec Nabila Hamel. Et puis nous irons à Rio une semaine avant l'ouverture des Jeux Olympiques. La population brésilienne paye très cher les JO. La ville connaît la plus importante vague d'expulsion de populations pauvres depuis un siècle. Reportage de notre correspondante Anne Vigna dans ce journal. Plusieurs rassemblements ont eu lieu encore aujourd'hui pour lutter contre la haine et le terrorisme après l'assassinat du père Jacques Hamel mardi. Héloïse de Neuville, bonsoir.
Bonsoir.
Des rassemblements religieux et laïcs pour répondre face à la violence.
Oui, et cela un peu partout en France. Une marche silencieuse a rassemblé cet après-midi à Lyon près de 400 personnes. Elle était organisée par des associations musulmanes, chrétiennes et laïques pour témoigner d'une société unis face au terrorisme. Ceci n'est pas une guerre de religion, pouvait-on lire, entre autres, sur les banderoles des marcheurs lyonnais. À Toulouse, 200 musulmans et catholiques ont eux aussi marché dans l'après-midi pour témoigner de leur solidarité. Enfin, à La Rochelle, une marche à l'appel d'une organisation culturelle islamique a également rassemblé quelques 200 personnes. Le Conseil français du culte musulman appelle quant à lui ses fidèles à se rendre à la messe demain partout en France pour exprimer solidarité et compassion avec les chrétiens. Voilà pour les hommages. Du côté de l'enquête, un jeune homme de 19 ans a été écroué. Les enquêteurs ont trouvé chez lui une vidéo d'un des deux assaillants faisant allégeance à Daesh et évoquant une action violente à venir. Deux autres personnes sont toujours en garde à vue. Le premier est le cousin d'un des deux tueurs. Le second est un demandeur d'asile syrien interpellé avant-hier dans le département de l'Allier. La photocopie de son passeport a été retrouvé au cours d'une perquisition menée au domicile d'Adel Kermich, l'un des deux terroristes.
Merci Héloïse de Neuville. Alors qu'en Belgique, le parquet annonce aujourd'hui l'inculpation d'un homme pour tentative d'assassinat terroriste. Arrêté hier, il serait soupçonné d'avoir préparé des attentats en Belgique, toujours selon le parquet fédéral. Comment traiter cette information alors que la France est touchée par des attentats sanglants? C'est l'une des questions posées aujourd'hui au Festival du journalisme vivant à Couture dans le Lot-et-Garonne. Arthur Quenet est chercheur à Paris 1, Panthéon-Sorbonne et au laboratoire Noria sur le Moyen-Orient. Il met en garde contre une montée de la violence au quotidien dans une réaction aux attentats.
Malheureusement, c'est ce qui se passe souvent dans les sociétés qui sont confrontées à ce genre d'attaque. Rapidement, des comités de défense civique se forment avec des réactions qui peuvent être sectaires, xénophobes, etc. Et derrière ça, une banalisation donc des attentats, donc cette violence qui peut devenir de plus en plus hebdomadaire. Et derrière ça, des réactions violentes, donc des chasses à l'homme, etc., qui peuvent s'organiser aussi en contre-coup. Et là, pour le coup, c'est quelque chose, c'est un tournant vers lequel on peut, avec derrière tous les problèmes sécuritaires que ça pose, c'est-à-dire une privatisation de la sécurité, des dérives au niveau électoral, dans les discours politiques, montée des extrêmes, etc. Ça, c'est des choses que, évidemment, je peux témoigner en Irak, en Syrie, en Libye, etc., qui sont très prégnantes, et qui, malheureusement, risquent d'arriver en France. Ouais.
Arthur Quenet, chercheur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a vécu plusieurs années en Irak et en Syrie notamment. Il répondait aux questions de Ludovic Piétenu. Le festival du journalisme vivant a lieu jusqu'à demain. Un homme se disant choqué et perturbé par l'assassinat du père Hamel près de Rouen par des djihadistes a été condamné à 6 mois de prison avec sursis à Nancy pour avoir, en réaction à cet attentat, déposé des lardons devant une mosquée en Lorraine. Alors que toujours à Nancy, c'est cette fois un détenu de 37 ans qui écope, lui, de 2 ans de prison ferme supplémentaire pour avoir proclamé sa volonté de faire le djihad en France et tuer tous les mécréants. Fin de citation. À Paris, Gare du Nord, aujourd'hui, un nouveau rassemblement cet après-midi a eu lieu à l'appel de la famille d'Adama Traoré, jeune homme de 24 ans, mort il y a 11 jours lors de son interpellation par les forces de l'ordre. L'avocat de la famille soutient la thèse de l'asphyxie du jeune homme. 228 policiers de l'ONU seront déployés au Burundi. Une décision votée hier soir par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et aujourd'hui, cette résolution passe mal aux yeux des autorités burundaises. D'où une manifestation dans les rues de la capitale, Bujumbura. Aujourd'hui, dans les premiers rangs, on y trouvait le maire de la capitale et de nombreux hauts cadres du parti au pouvoir. Un mouvement bien organisé, semble-t-il. Nabila Hamel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et c'est justement vers l'ambassade de France que se sont dirigés les manifestants.
Oui, un millier de personnes encadrées par des policiers, de façon à ne pas laisser dégénérer la marche, mais des slogans hostiles à la France étaient entendus aux abords de la représentation diplomatique française. Les manifestants se sont ensuite dirigés vers l'ambassade du Rwanda. En cause, la résolution votée hier soir par le Conseil de sécurité de l'ONU. 11 pays l'ont adoptée, 4 dont la Chine se sont abstenus. Le texte prévoit un dispositif policier international qui aurait pour mission de ramener le calme dans le pays et d'y faire respecter les droits de l'homme. Cette mission d'un an pourrait être prolongée ou modifiée si la situation s'aggrave. La colère des partisans du pouvoir burundais est dirigé vers la France, car il lui reproche d'être à l'origine de cette proposition au Conseil de sécurité. L'ambassadeur de France parle d'une incompréhension profonde et affirme que cette résolution sur l'envoi d'un dispositif policier est bonne pour le pays. En crise politique depuis avril 2015, le Burundi a toujours refusé l'envoi de forces ou de dispositifs étrangers, invoquant le respect de sa souveraineté. Bujumbura était déjà fortement réticent à l'envoi d'une centaine d'observateurs et d'une autre centaine d'experts militaire de l'Union africaine, puisqu'il n'en a toléré qu'une quarantaine pour le moment. Une source diplomatique parle d'une situation caractérisée par l'intimidation, la peur et la répression et affirme que l'envoi de 228 policiers aurait le mérite de rassurer une population tétanisée.
Merci Nabila Hamel pour toutes ces précisions. Alors que le président turc Erdogan a multiplié les purges depuis le coup d'État manqué du 15 juillet dernier avec 18 000 personnes placées en garde à vue et 50 000 limogeages, Ankara annonce ce soir relâcher plus de 750 soldats interpellés après le putsch raté il y a 2 semaines maintenant. En Tunisie, le Premier ministre Habib Essid s'est exprimé devant le Parlement, ultime discours avant le vote de confiance d'aujourd'hui, dans le bras de fer qu'il oppose au président tunisien Bejikaïd Essebsi. Le gouvernement formé il y a 1 an et demi a déjà été remanié en janvier dernier, alors que le pays traverse une grave crise économique et qu'il est la cible de plusieurs attaques djihadistes sanglantes. 5 semaines après le Brexit, 3 à 4 000 personnes ont défilé ce matin à Glasgow pour réclamer la tenue d'un deuxième référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Lors du référendum du 23 juin dernier, l'Écosse avait pourtant voté à 62% pour rester dans le giron européen. À une semaine de l'ouverture des Jeux Olympiques, quel est le coût social des JO pour le Brésil? La ville a connu la plus importante vague d'expulsion de populations pauvres depuis un siècle pour des projets liés à ces grands événements. À Rio, le reportage de notre correspondante Anne Vigna.
Le bruit des pelleteuses qui détruisent des maisons a souvent été entendu dans les communautés pauvres de Rio depuis que la ville a été choisie pour recevoir les Jeux Olympiques en 2009. Selon les chercheurs, 25 000 familles, près de 67 000 personnes ont été expulsées de leurs maisons pour l'organisation de ces grands événements. Pour le professeur en urbanisme Orlando Santos, le résultat est un déplacement des plus pauvres vers la banlieue de Rio et une ville toujours plus inégalitaire après ces Jeux Olympiques.
Le pouvoir public retire ces familles.
Les autorités de Rio ont délogé ces familles et les ont transférées vers la périphérie de la ville, sans négociation, en les menaçant et en les obligeant à accepter ce type d'expulsion, en empêchant ces familles de pouvoir rester où elles vivaient.
Dans beaucoup de cas, des communautés ont été déplacées sans qu'aucun projet ne voie le jour sur leur terre. Ce fut le cas de la favela Metro, qui se trouvait à côté du stade Maracana avant la Coupe du Monde et qui est aujourd'hui un terrain vague. Pour les urbanistes, ces terrains seront pourtant bien transformé un jour, car la spéculation immobilière a beaucoup augmenté à Rio avec ses grands événements sportifs. Une spéculation dont les plus pauvres ne profiteront pas, puisqu'ils ont été indemnisés à un prix bien en deçà de celui du marché immobilier.
Le temps pour demain, soleil voilé le matin sur la Bretagne et la Franche-Comté notamment, des orages sur la Normandie et les Alpes dans le cours de la journée, température comprise entre 17 et 30 degrés l'après-midi.